Chapitre 9. Un mois après les scènes que nous venons de rapporter, Marie Salada se trouva beaucoup mieux portante, sans montrer le moindre désir de retourner chez son père. Stein était complètement rétabli. Son caractère bienveillant, ses modestes penchants, ses sympathies naturelles l'attachaient chaque jour davantage au groupe paisible de gens simples, bons et généreux, au milieu desquels il vivait. Son découragement amer se dissipait peu à peu, son âme reprenait sa vigueur et se réconciliait avec l'existence et avec les hommes. Un soir, appuyé contre un mur du couvent qui faisait face à la mer, il contemplait le spectacle grandiose d'une de ces tempêtes qui précèdent ordinairement l'hiver. Une triple couche de nuages passait au-dessus de lui, poussée rapidement par le vent du sud-ouest. Les moins élevés, noirs et pesants, ressemblait au dôme d'une vieille cathédrale en ruine et menaçant de s'écrouler. Quand il tombait sur le sol, en se fondant en eau, on voyait la seconde couche, moins sombre et plus légère, défiant en vitesse le vent qui la déchirait et laissant apercevoir par ses ouvertures d'autres nuages plus élevés et plus blancs qui couraient encore avec plus de rapidité, comme s'ils avaient eu peur de tacher leur blanc manteau au contact des autres. Ces interstices donnaient passage à de subites échappées de lumière qui tombaient tantôt sur les vagues, tantôt sur la campagne, puis disparaissaient bientôt, remplacées par l'obscurité que ramenaient d'autres nuages plus sombres. Ces alternatives de lumière et d'ombre animaient singulièrement le paysage. Tous les êtres vivants avaient cherché un refuge contre la fureur des éléments et l'on n'entendait autre chose que le lugubre duo produit par le mugissement des vagues et les hurlements de l'ouragan. Les arbres de la prairie ployaient leurs têtes vigoureuses sous la violence du vent qui, après les avoir fouettés, allait se perdre au loin avec de sourdes menaces. La mer agitée formait ces énormes lames qui, graduellement, s'enflent, se balancent, puis crèvent en mugissant et en jetant des torrents d'écume, selon l'expression de Goethe, quand il les compare, dans son Torquato Tasso, à la colère qui agite le cœur de l'homme. La mer se brisait avec tant de violence contre les rochers du fort Saint-Christophe qu'elle couvrait de blancs flocons d'écume les feuilles sèches et jaunies des figuiers. « Vous êtes dans une citerne, don Frédéric, pour vouloir recueillir toute l'eau qui tombe du ciel, » dit le berger José. « Rentrons dans l'intérieur, car les toits sont bien faits à coup sûr pour des soirées pareilles. Mes pauvres brebis donneraient bien quelque chose pour avoir l'abri de quelques tuiles. » Ils rentrèrent effectivement et trouvèrent la famille Alerza réunie auprès du feu. À gauche de la cheminée, Dolorès, assise sur une chaise basse, soutenait avec son bras son nourrisson, qui, tournant le dos à sa mère, s'appuyait sur le bras qui l'entourait, comme sur la rampe d'un balcon. Il remuait sans cesse ses petites jambes et ses petits bras nus, et poussait des éclats de rire et des cris de joie qu'il adressait à son frère Anis. Celui-ci, gravement assis sur le bord d'un grand vase vide, en face du feu, se tenait raide et immobile, de peur que quelque mouvement trop vif ne lui fît faire un plongeon, désagrément que sa mère lui avait prédit. La tante Maria était occupée à filer à droite de la cheminée. Ses deux petites filles étaient sur des souches sèches d'aloès qui forment des sièges excellents, légers et solides. Presque sous le manteau de la cheminée dormaient le robuste palomo et le grave morongo, se tolérant par nécessité, mais gardant cependant entre eux une distance respectueuse. Au milieu de l'appartement, il y avait une petite table peu élevée sur laquelle brûlait une lampe à quatre becs. Près de la table était assis le frère Gabriel, qui fabriquait ses cabas en sarterie de palmier, Momo, qui raccommodait le harnachement de la bonne hirondelle, et Manuel, qui était occupé à moudre du tabac. Sur le feu chauffait une grande poêle remplie de patates de Malaga, de vin blanc, de miel, de cannelle et de clous de girofle, et la petite famille attendait avec impatience que la compote parfumée fût cuite à point. « Avancez, avancez !» cria la tante Maria en voyant arriver son hôte et le berger. « Que pouvez-vous donc faire dehors par une pareille tempête qui a l'air de vouloir engloutir le monde entier ?» « Ici, donc, Frédéric, ici, donc, près du feu qui vous appelle. Sachez que notre malade a soupé comme une princesse et qu'elle dort à présent comme une reine. Sa guérison marche rapidement, n'est-ce pas, don Frédéric ? L'amélioration de sa santé dépasse mes espérances. « Ce sont mes bouillons !» insinua orgueilleusement la tante Marie. « Et le lait d'ânesse !» ajouta à voix basse le frère Gabriel. « Il n'y a pas de doute, répondit Stein, et il faut qu'elle continue à en prendre. « Je ne m'y oppose pas, dit la tante Marie, car si le lait d'ânesse ne fait pas de bien, il ne fait pas de mal. « Ah, qu'on est bien ici, dit Stein en caressant les enfants. Si l'on pouvait vivre en ne pensant qu'au jour présent, sans s'inquiéter de l'avenir. « Oui, donc Frédéric, s'écria Manuel. La chandelle remplit la moitié de l'existence, le pain et le vin l'autre moitié. « Et qu'avez-vous besoin de penser à ce lendemain ? Répondit la tante Marie. « Faut-il que le jour de demain nous gâte celui d'aujourd'hui ? Aussi, il ne faut penser qu'au jour présent pour que celui de demain ne nous attriste pas. » « L'homme est un voyageur, dit Stein, et il doit regarder son chemin devant lui. « Certainement, fit la tante Marie, l'homme est un voyageur, mais quand il arrive à un lieu où il se trouve bien, il doit dire, comme Élie ou comme Saint-Pierre, je ne sais pas au juste lequel des deux, « Nous sommes bien ici, élevons-y nos tentes. » « Si vous allez nous faire perdre la soirée à parler de voyage, dit Dolorès, nous croirons que nous vous avons offensé ou que vous ne vous trouvez pas bien ici. » « Qui parle de voyage à la mi-décembre ? » demanda Manuel. « N'avez-vous pas vu les sombres vapeurs qui couvrent la mer ? Écoutez la chanson du vent. Embarquez-vous par un temps pareil, comme vous vous êtes embarqué dans la guerre de Navarre, et vous en reviendrez avec les mains à la tête, comme alors. » « D'ailleurs, dit la tante Marie, notre malade n'est pas encore complètement guéri. » « Ma mère, interrompit Dolorès, importunée par les enfants, si vous n'appelez pas ces bambins, les patates ne seront pas cuites avant le jugement dernier. » La grand-mère laissa la quenouille dans un coin et appela ses petits-enfants. « Nous ne venons pas, dirent-ils tous ensemble, si vous ne nous racontez pas une histoire. » « Allons, je vais vous en raconter une, » dit la bonne vieille. Alors les enfants se rapprochèrent d'elle, Anise reprit sa position sur le bord du vase et elle commença en ces termes. Demi-poulet. Conte. Il y avait autrefois une belle poule qui vivait fort à l'aise dans une ferme, entourée de sa nombreuse famille, dans laquelle on pouvait remarquer un petit poulet difforme et estropié. C'était justement celui que la mère aimait le plus. Les mères sont toujours ainsi. Ce pauvre avorton était né d'un œuf manqué. Ce n'était qu'une moitié de poulet et l'on aurait cru que l'épée de Salomon avait exécuté sur lui le jugement de ce roi si sage. Il n'avait qu'un œil, qu'une aile et qu'une patte. Et avec tout cela, il avait autant d'amour-propre que son père, qui était le coq le plus vigoureux, le plus brave et le plus galant de toutes les basses-cours, à 20 lieues à la ronde. Ce diminutif de poulet se croyait le phénix de son espèce. Si les autres poulets se moquaient de lui, il croyait que c'était par envie, et si les jeunes poulettes en faisaient autant, il disait que c'était par rage, à cause du peu de cas qu'il faisait d'elles. Un jour, il dit à sa mère, « Écoutez, ma mère, la campagne m'ennuie. Je me suis proposé d'aller à la cour. Je veux voir le roi et la reine. » « Mon fils, s'écria-t-elle, qui t'a mis dans la tête une pareille extravagance ? Ton père n'est jamais sorti de son pays et il a été l'honneur de sa race. Où rencontreras-tu une basse-cour comme celle-ci ? Où trouveras-tu un plus riche tas de fumier, une nourriture plus saine et plus abondante, un poulailler plus abrité auprès de l'écurie et une famille qui t'aime davantage ?» Nego, dit Neuvipoulet en latin, car il avait lu et écrit. Mes frères et mes cousins sont des ignorants et des imbéciles. Mais, mon enfant, répondit la mère, tu ne t'es donc jamais regardé dans un miroir ? Tu n'as pas vu que tu as une patte et un œil de moins ? Puisque vous me rappelez cela, dit Demi-Poulet, je dirais que vous devriez rougir de honte de me voir dans un pareil état. La faute en est à vous et à vous seul. « De quel œuf suis-je sorti pour venir au monde ? N'était-ce pas celui d'un vieux coq ? Non, mon fils, de semblable, il ne sort que des basilis. Tu es né du dernier œuf que j'ai pondu et tu en es sorti, faible et mal conformé, parce que c'était le dernier de la ponte. Non, certainement, cela n'a pas été de ma faute. C'est possible, dit Demi-Poulet, la crête enflammée et rouge comme une grenade. Mais je puis trouver un chirurgien habile qui me mettra les membres qui me manquent. D'ailleurs, c'est décidé, je m'en vais. Quand la pauvre mère vit qu'il n'y avait pas moyen de le détourner de son projet, elle lui dit « Écoute au moins, mon enfant, les conseils d'une bonne mère. Aie soin de ne pas passer par les églises où se trouve une image de Saint-Pierre. Ce saint n'aime pas beaucoup les coqs et moins encore leurs chants. Il y a aussi dans le monde certains hommes qu'on appelle des cuisiniers. Ce sont nos ennemis mortels et ils nous tordent le cou dans le temps de dire « Amen ». Et maintenant, mon cher fils, que Dieu te conduise, ainsi que le bienheureux Saint Raphaël, qui est le patron des voyageurs. Va et demande à ton père sa bénédiction. » Demi-Poulet alla trouver le respectable auteur de séjour, inclina la tête pour lui baiser la patte et lui demanda sa bénédiction. Le vénérable coq la lui donna avec plus de dignité que de tendresse, car il ne l'aimait pas à cause de son mauvais caractère. La pauvre mère s'attendrit tellement qu'elle fut obligée d'essuyer ses larmes avec une feuille sèche. Demi-Poulet se mit en marche, battit de l'aile et chanta trois fois en signe d'adieu. En arrivant sur le bord d'un ruisseau presque desséché, car on était en été, il se trouva que le maigre filet d'eau qui restait était arrêté par quelques branches. Le ruisseau, apercevant le voyageur, lui dit « Tu vois, ami, comme je suis faible. C'est à peine si je puis avancer, et je n'ai pas assez de force pour pousser ces petites branches qui gênent mon passage. Je ne puis même faire un détour pour les éviter, parce que cela me fatiguerait trop. Il t'est bien facile de me tirer de ma détresse en les écartant avec ton bec. En récompense, tu peux apaiser ta soif dans mon courant et compter sur mes services quand l'eau du ciel m'aura rendu mes forces. » Demi-Poulet lui répondit « Je le pourrais bien, mais je ne le veux pas. Est-ce que j'ai la figure du valet des ruisseaux dességés et bourbeux ?»« Tu te souviendras de moi quand tu y songeras le moins, » murmura le ruisseau d'une voix faible. « Il ne manquerait plus que de te voir regorger d'eau, » dit méchamment Demi-Poulet. « On croirait que tu as tiré un terne à la loterie ou que tu comptes en toute assurance sur les eaux du déluge. » Un peu plus loin, il rencontra le vent qui était étendu par terre et presque sans souffle. « Mon cher Demi-Poulet, lui dit-il, dans ce monde, nous avons tous besoin les uns des autres. Approche et regarde-moi. Tu vois dans quel état m'a mis la chaleur de l'été, moi si fort, si puissant, moi qui soulève les flots, qui ravage les campagnes et qui ne trouve rien qui puisse résister à mon impétuosité. Ce jour de canicule m'a tué. Je me suis endormi, enivré par les parfums des fleurs avec lesquelles je jouais, et tu me trouves ici tombé en défaillance. Si tu voulais seulement me soulever de terre de la hauteur de deux doigts avec ton bec et m'éventer avec ton aile, j'en aurais assez pour prendre mon vol et regagner la caverne où ma mère et mes sœurs, les tempêtes, sont occupées à raccommoder quelques vieux nuages que j'ai mis en pièces. Là, elles me donneront quelques aliments et je recouvrerai ma vigueur. « Monsieur, répondit le malveillant Demi-Poulet, trop souvent vous vous êtes diverti à mes dépens en me poussant par derrière et ouvrant ma queue comme un éventail afin que tous ceux qui me voyaient se moquassent de moi. Non, cher ami, à chacun son tour. Au revoir, monsieur le farceur. » Après avoir dit ces mots, il chanta trois fois d'une voix aiguë en se pavanant, et, plein de présomption, il continua son chemin. Au milieu d'un champ dépouillé de sa récolte, auquel les laboureurs avaient mis le feu, s'élevait une petite colonne de fumée. Demi-Poulet s'approcha et vit une petite étincelle qui menaçait par moments de s'éteindre entre les cendres. « Très cher Demi-Poulet, lui dit l'étincelle en le voyant, tu arrives à propos pour me sauver la vie. Faute d'aliments, je suis à la dernière extrémité. Je ne sais ce qu'est devenu mon cousin le vent qui vient toujours à mon secours dans ces occasions. Apporte-moi quelques brins de paille pour me ranimer. « Est-ce que j'ai prêté serment de te servir ?» lui répondit le poulet. « Crève si tu veux. Maudit soit le retard que tu me causes. » « Qui sait si je ne te manquerai pas quelque jour ? Personne ne peut dire, fontaine, je ne boirai pas de tonneau. » « Holà ! » dit le méchant poulet, « tu fais encore la fière ? Tiens, prends cela !» En parlant ainsi, il couvrit l'étincelle de cendre. Puis il se mit à chanter, suivant son habitude, comme s'il avait fait une belle action. Demi-poulet arriva dans la capitale. Il passa devant une église qu'on lui dit être celle de Saint-Pierre. Alors il se mit en face de la porte, et là, il s'égosilla à chanter, seulement pour faire enrager le saint et désobéir à sa mère. Lorsqu'il fut arrivé au palais où il voulut entrer pour voir le roi et la reine, les sentinelles lui crièrent « Arrière !» Alors il fit un détour et entra par une porte de derrière dans une très vaste salle où il vit beaucoup de gens qui entraient et sortaient. Il demanda qui ils étaient et il apprit que c'étaient les cuisiniers de Sa Majesté. Au lieu de fuir, comme sa mère le lui avait conseillé, il entra en redressant le plus possible la crête et la queue. Mais l'un des marmitons lui mit la main au collet et lui tordit le cou en un clin d'œil. « Allons, dit-il, viens, oh, pour échauder ce pénitent. »« Oh, ma chère Donia Cristalline, dit le malheureux poulet, fais-moi la grâce de ne pas m'échauder, aie pitié de moi. » « As-tu donc eu pitié de moi, mauvais avorton, quand je t'ai demandé secours ?» dit l'eau bouillant de colère. Et elle l'inonda de haut en bas, pendant que, pour le guérir, les marmitons lui arrachaient jusqu'à la dernière plume. Pâques, qui était à genoux près de sa grand-mère, se mit à rougir et devint toute triste. Alors le cuisinier, continua la tante Marie, saisit demi-poulet et le mit à la broche. « Feu, feu brillant !» cria l'infortuné. « Toi qui es si puissant et si resplendissant, aie pitié de ma situation, réprime ton ardeur, éteins tes flammes, ne me brûle pas !»« Coquin !» répondit le feu, « comment as-tu l'audace d'implorer mon aide après m'avoir étouffé sous le prétexte que tu n'aurais jamais besoin de moi ? Approche-toi et tu verras ce qui est bon !» Et, en effet, il ne se contenta pas de le dorer, mais il le fit brûler jusqu'à le réduire en charbon. En entendant cela, les yeux de Pâques se remplirent de larmes. Quand le cuisinier le vit dans cet état, continua la tante Marie, il le saisit par la patte et le jeta par la fenêtre. Alors le vent s'empara de lui. « Vent !» cria demi-poulet, « mon cher, mon respectable vent !» Toi qui règnes sur toutes choses et n'obéis à personne, toi puissant parmi les puissants, aie pitié de moi et laisse-moi tranquillement sur ce monceau de fumier. Te laisser ? Rugit le vent en l'emportant dans un tourbillon et en le faisant tourner en l'air comme une toupie. Jamais ! Les larmes qui remplissaient les yeux de Pâques coulaient le long de ses joues. Le vent, poursuivit l'aïeul, déposa demi-poulet au sommet d'un clocher. Saint-Pierre étendit la main et l'y cloua solidement. Depuis ce temps, il occupe cette place, noir, maigre et sans plumes, fouetté par la pluie, secoué par le vent qui le frappe toujours sur la queue. Il ne s'appelle plus demi-poulet, mais Girouette. Et sachez tous qu'il est là, expiant ses fautes, ses péchés, sa désobéissance, son orgueil et sa méchanceté. Grand-mère, dit Pépa, voyez Pâques qui pleure à cause de demi-poulet. N'est-ce pas vrai que tout ce que vous nous avez dit n'est qu'un conte ? Sans doute, dit Momo, rien de tout cela n'est vrai. Mais quand cela le serait, ne serait-ce pas trop de bonté que de pleurer pour un misérable qui n'a eu que le châtiment qu'il méritait ? « Quand j'étais à Cadix, il y a 30 ans, répondit la tante Marie, j'ai vu une chose qui m'a laissé une profonde impression. Je vais te la dire, Momo, et Dieu veuille qu'elle ne s'efface pas plus de ta mémoire qu'elle ne s'est effacée de la mienne. » C'était un écriteau en lettres d'or placé sur la porte de la prison. Voici ce qu'il disait. « Aie le crime et aie pitié du criminel. » N'est-ce pas, don Frédéric, que cela a l'air d'une sentence de l'Évangile ?»«
Si ce ne sont pas les mêmes paroles, dit Stein, c'est bien le même esprit. »
« Mais c'est que Pâques a toujours les larmes aux yeux, » dit Momo.
« Est-ce que c'est mal de pleurer ?»
demanda l'enfant à sa grand-mère.
« Non, ma fille, au contraire, c'est avec des larmes de compassion ou de repentir que la reine des anges compose sa couronne. »
« Momo, dit le berger, si tu dis encore un mot qui puisse faire de la peine à ma filleule, je te tords le cou comme le cuisinier a fait à demi-poulet. »
« Tu vois s'il est bon d'avoir un parrain ?» fit Momo en s'adressant à Pâques.
« Il n'est pas mauvais non plus d'avoir une filleule !» répondit Pâques à toute glorieuse.
« Vraiment ?» reprit le berger. « Et pourquoi dis-tu cela ?»
Alors Pâques s'approcha de son parrain qu'il a pris sur ses genoux en lui faisant toutes sortes d'amitiés, et elle commença le récit suivant en tournant sa petite tête pour le regarder.
Il y avait une fois un malheureux tellement pauvre qu'il n'avait pas de quoi vêtir un huitième enfant que sa femme était sur le point de lui donner, ni de quoi fournir à manger aux sept autres. Il quitta un jour sa maison parce qu'il était trop chagrin de les entendre pleurer et lui demander du pain. Il se mit en route sans savoir où il allait et, après avoir continué à marcher toute la journée, il se trouva à la nuit. Vous ne devinez pas où, parrain ? Eh bien, il se trouva à l'entrée d'une caverne de voleurs. Le capitaine parut sur la porte. C'était bien l'homme le plus farouche.
« Qui es-tu? Que veux-tu ? » lui demanda-t-il d'une voix de tonnerre.
« Monsieur, répondit le pauvre diable en tombant à genoux, je suis un malheureux qui ne fait de mal à personne et je me suis enfui de ma maison pour ne pas entendre mes pauvres enfants qui me demandent du pain et à qui je ne puis en fournir. »
Le capitaine eut compassion de ce malheureux et, lui ayant donné à manger, il lui fit cadeau d'une bourse pleine d'argent et d'un cheval. Puis il lui dit « Va-t'en, et quand ta femme te donnera un nouvel héritier, avertis-moi et je serai son parrain. »
« Voilà le bon moment qui arrive, » dit le berger.
« Attendez, attendez, vous allez voir la suite, » continua la petite. L'homme retourna chez lui si content que le cœur ne lui tenait plus dans la poitrine. « Comme mes enfants vont être joyeux !» se disait-il. Quand il arriva, l'enfant qui l'attendait était déjà venu au monde. Il était dans le lit avec sa mère. Alors il retourna à la caverne et dit au voleur ce qui était arrivé. Le capitaine lui dit qu'il serait la nuit suivante à l'église et tiendrait la promesse qu'il lui avait faite. Il le fit en effet, tint l'enfant sur les fonts baptismaux et lui fit présent un sac rempli d'or. Mais peu de temps après, l'enfant mourut et alla au ciel. Saint-Pierre, qui était à la porte, lui dit d'entrer. Mais l'enfant lui dit « Je n'entrerai pas si mon parrain n'entre pas avec moi. »
« Et qui est ton parrain ?» demanda le saint.
« C'est un capitaine de voleurs, » répondit l'enfant.
« Eh bien, mon enfant, tu peux entrer, mais non pas ton parrain. »
L'enfant s'assit à la porte, bien triste, et la joue appuyée sur sa main. La Vierge, venant à passer par là, lui dit « Pourquoi n'entres-tu pas, mon enfant ?» L'enfant répondit qu'il ne voulait pas entrer si son parrain n'entrait pas avec lui et que Saint-Pierre lui avait dit que c'était demander l'impossible. Puis l'enfant se mit à genoux, croisa ses petites mains et pleura si fort que la Vierge, qui est la mère des miséricordes, eut pitié de sa douleur. Elle s'en alla et revint tenant une petite coupe d'or entre les mains. Elle la donna à l'enfant et lui dit « Va chercher ton parrain et dis-lui qu'il remplisse cette coupe de larmes de contrition et alors il pourra entrer dans le ciel avec toi. Prends ses ailes d'argent et vole !» Le voleur dormait sur un rocher, tenant son espingole dans une main et un poignard dans l'autre. En s'éveillant, il vit en face de lui, assis sur une touffe de lavande, un bel enfant qui avait des ailes d'argent reluisant au soleil et une coupe d'or dans la main. Le voleur se frotta les yeux, croyant qu'il rêvait. Mais l'enfant lui dit « Ne crois pas que tu rêves, je suis ton filleul. » Et il lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Alors le cœur du brigand s'ouvrit comme une grenade et ses yeux versèrent de l'eau comme une fontaine.
Sa douleur fut si violente et son repentir si vif qu'il lui percèrent le cœur comme deux poignards et qu'il mourut. Alors l'enfant prit la coupe pleine de larmes et s'envola avec l'âme de son parrain vers le ciel où ils entrèrent, et Dieu veuille que nous y entrions tous. « Et maintenant, parrain, » continua l'enfant en tournant sa petite tête et regardant en face le berger, « vous voyez qu'il est bon aussi d'avoir des filleuls. » À peine la petite fille finissait-elle son histoire qu'on entendit un grand bruit. Le chien se leva et dressa les oreilles, prêt à la défense. Le chat, le poil hérissé et jetant des regards effrayés, se prépara à fuir. Mais bientôt, à ce moment d'effroi succéda une bruyante hilarité. Voici ce qui était arrivé. Annie s'était endormie pendant le récit de sa petite sœur, si bien que, perdant l'équilibre, il vérifia la prédiction de sa mère en tombant au fond du grand vase dans lequel sa petite personne disparut, à l'exception de ses pieds et de ses mains, qui s'élevaient de l'intérieur comme une plante d'une nouvelle espèce. Sa mère, impatientée, le saisit d'une main par le collet de sa veste, le retira de cette position critique et, malgré sa résistance, le tint quelques instants suspendu en l'air, de telle sorte qu'il avait l'air d'une de ces marionnettes qui, suspendues à une ficelle, agitent d'une manière désordonnée les bras et les jambes quand on les fait mouvoir par un autre fil. Comme sa mère le grondait et que tous riaient à ses dépens, Anis, qui avait mauvais caractère, comme on dit que l'ont tous les petits hommes, ce qui n'empêche pas les grands de l'avoir également, se mit à pleurer bruyamment de colère.
« Ne pleure pas, Anis, » dit Pâques, « ne pleure pas et je te donnerai deux châtaignes que j'ai dans ma poche. »
Pâques atteignit les châtaignes et les donna à son frère et, au lieu de larmes, on vit briller à la lueur du feu deux rangées de petites dents blanches. « Frère Gabriel, » dit la tante Marie en s'adressant à celui-ci, « ne m'avez-vous pas dit que vous aviez mal aux yeux ? Pourquoi donc travaillez-vous le soir ?»«
J'y avais mal, » répondit le frère Gabriel, « mais Don Frédéric m'a donné un remède qui m'a guéri. »«
Don Frédéric peut connaître plusieurs remèdes pour les yeux, » dit le berger, « mais il ne connaît pas celui qui ne manque jamais son effet. »«
Si vous le connaissez, » lui dit Stein, « vous m'obligeriez en me l'apprenant. »
« Je ne puis le dire, » répondit le berger, « car bien que je sache qu'il existe, je ne le connais pas. »«
Qui donc le connaît ?» demanda Stein.
« Les hirondelles, » répondit le berger.
« Les hirondelles ?»«
Certainement, monsieur, » poursuivit le berger. « C'est une herbe qui s'appelle pittoréale, mais que personne ne connaît à l'exception des hirondelles. Si leurs petits perdent les yeux, elles les frottent avec le pittoréale, et il recouvre la vue. Cette herbe a aussi la vertu de briser le fer rien qu'à la touchant. Aussi, quand il arrive aux moissonneurs et aux jardiniers de voir leurs instruments de fer se briser entre leurs mains sans qu'ils puissent s'expliquer pourquoi, c'est parce qu'ils ont touché au pittoréal. Mais quelques recherches qu'on ait faites pour la trouver, personne ne l'a jamais vue, et c'est une bonté de la divine providence qu'il en soit ainsi, car si on la découvrait, que de vols se commettraient dans le monde, puisqu'il n'y aurait plus ni serrure, ni verrou, ni barre de fer qui puissent résister.
Voyez les bêtises qu'avale Rossé, dit Manuel en riant. Il a un gosier comme un requin.
Don Frédéric, savez-vous une autre chose qu'il dit et qu'il croit comme un article de foi? Il dit que les couleuvres ne meurent jamais.
Mais cela se voit bien qu'elles ne meurent pas, répondit le berger. Quand elles voient que la mort approche, elles se dépouillent de leur peau et se mettent à courir. Avec les années, elles deviennent serpents. Alors peu à peu, elles se font des écailles et des ailes, jusqu'à ce qu'elles deviennent des dragons et s'envolent dans les déserts. Mais toi, Manuel, tu ne veux rien croire. Tu voudras sans doute nier aussi que le lézard est l'ennemi de la femme et l'ami de l'homme. Si tu ne veux pas le croire, demande-le à l'oncle Miguel.
« Est-ce qu'il le sait ?»«
Sans doute. Voilà ce qui lui est arrivé à lui-même. »«
Et que lui est-il arrivé ?» demanda Stein.
S'étant endormi dans la campagne, répondit José, il vit une couleuvre s'approcher de lui. Mais aussitôt, un lézard qui était dans le fossé la vit venir. Il sortit pour défendre l'oncle Miguel
et un combat commença entre la couleuvre et le lézard, qui était d'une taille extraordinaire. Mais comme, malgré tout cela, l'oncle Miguel ne s'éveillait pas, le lézard lui mit le bout de la queue dans le nez. Alors l'oncle Miguel s'éveilla et prit sa course comme s'il avait eu le feu sous les pieds. Le lézard est un bon petit animal et de bon caractère. Jamais il ne se retire, au coucher du soleil, sans descendre le long des murailles et venir baiser la terre. Lorsqu'avait commencé cette conversation au sujet des hirondelles, Pâques avait dit à Anise, qui, assis par terre entre ses sœurs avec les jambes croisées, avait l'air du grand turc en miniature, « Anise, sais-tu ce que disent les hirondelles ?»«
Moi, non, elles ne m'ont jamais parlé. »«
Eh bien, attends, elles disent... » Et, imitant le gazouillement des hirondelles, elle se mit à dire rapidement,
« Manger et boire, chercher notre proie, et si l'on veut nous prendre pour n'avoir pas payé, fuir, 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 Gomère et Béatrix !»«
C'est pour cela qu'elles s'en vont ?» demanda Anise.
« C'est pour cela, » affirma sa sœur.
« Et je les aime, » dit Pépa.
« Et pourquoi ?» demanda Anise.
« Parce que tu dois savoir, » répondit la petite fille, « que sur le mont Calvaire, les hirondelles retirèrent à Jésus-Christ les 5 épines. Sur le mont Calvaire, les chardonnerets ôtèrent à Jésus-Christ les 3 clous.
« Et les moineaux, qu'ont-ils fait ?» demanda Anise.
Les moineaux, répondit sa sœur, je n'ai jamais appris qu'ils fissent autre chose que de manger et se battre.
Pendant ce temps-là, Dolorès, portant son nourrisson endormi sur un bras, avait mis le couvert avec la main qui lui restait libre, placé au milieu de la table les patates et distribué à chacun sa part. Les enfants mangeaient dans son assiette et Stein remarqua que Dolorès ne goûtait même pas du plat qu'elle avait préparé avec tant de soin.
« Vous ne mangez pas, Dolorès ?» lui dit-il.
« Vous ne savez donc pas le proverbe ?» répondit celle-ci en riant. « Celui qui a des enfants près de lui ne mourra pas d'indigestion. Don Frédéric, ce qu'il mange, m'engraisse. »
Momo, qui était près de ce groupe, retira son assiette de peur que ses sœurs eussent la tentation de lui demander d'en partager le contenu. Son père, qui le remarqua, lui dit «
Ne sois pas avide, ce qui est un vilain défaut, ni avare, ce qui est un vice infâme. Apprends qu'un jour un avare tomba dans une rivière. Un paysan qui le vit emporté par le courant allongea le bras et lui cria « Donne-moi la main !»«
Comment donner ?»
Et plutôt que de rien donner, il se laissa entraîner par le courant. Il fut assez heureux pour que l'eau le portât près d'un pêcheur qui lui dit « Ami, prenez cette main !» Comme il s'agissait de prendre, notre homme obéit promptement et fut sauvé.
Ce n'est pas une pareille plaisanterie, Manuel, que tu aurais dû conter à ton fils, dit la tante Marie. Tu aurais dû lui citer l'exemple de ce qui arriva à ce mauvais riche qui ne voulut donner ni un morceau de pain, ni un verre d'eau à un pauvre qui mourait de faim.
Que Dieu permette, dit le pauvre, que tout ce que tu toucheras se change en cet or et en cet argent auquel tu es si attaché. Et il en arriva ainsi. Tout ce qui se trouvait dans la maison de l'avare se convertit en ces 2 métaux aussi durs que son cœur. Tourmenté par la faim et par la soif, il sortit dans la campagne et, ayant aperçu une source d'eau transparente comme le cristal, il se précipita sur elle avec avidité. Mais quand il la toucha de ses lèvres, l'eau se coagula et se changea en argent. Il alla prendre une orange à un arbre et quand il la toucha, elle se changea en or, de sorte qu'il mourut la rage au cœur et maudissant ce qu'il avait si passionnément aimé. Manuel, l'esprit fort de la compagnie, secoua la tête.
« Vous voyez bien, tante Maria, » dit José, « Manuel ne veut pas le croire. Il ne croit pas non plus que le jour de l'Assomption, au moment de l'élévation à la grand-messe, toutes les feuilles s'unissent pour former une croix. Celles qui sont plus élevées s'inclinent, celles qui sont plus bas se dressent, sans qu'une seule manque de le faire. Il ne croit pas non plus que le 10 août, jour du martyr de Saint-Laurent, qui fut brûlé sur un grill, en creusant la terre, on trouve du charbon partout.
Quand ce jour viendra, dit Manuel, je creuserai un trou devant toi, José, et nous verrons si je pourrai te convaincre qu'il n'y a rien de semblable. Et quel beau succès tu remporteras si tu ne trouves pas de charbon, lui dit sa mère. Crois-tu par hasard que tu en trouveras si tu n'y crois pas?
Mais Manuel, tu t'es figuré que tout ce qui n'est pas article de foi ne doit pas être cru et que la disposition à croire n'appartient qu'aux imbéciles, tandis qu'au contraire, mon cher fils, c'est le fait des gens sensés.
Mais ma mère, répondit Manuel, entre courir et rester en place, il y a un milieu.
Et pourquoi, dit la bonne vieille, lésiner tant avec la foi qui, après tout, est la première des vertus? Que penserais-tu, enfant de mes entrailles, si je te disais « Je t'ai mis au monde, je t'ai élevé, je t'ai mis en route. J'ai donc rempli toutes mes obligations. » Comme si l'amour d'une mère n'était qu'une affaire d'obligation.
Je dirais que vous n'êtes pas une bonne mère.
Eh bien, mon fils, applique cela à l'autre chose. Celui qui ne croit que parce qu'il y est obligé et qui ne croit que ce qu'il ne peut se dispenser de croire sans être renégat est un mauvais chrétien, comme je serais une mauvaise mère si je ne t'aimais que par obligation.
Frère Gabriel, dit Dolorès, comment se fait-il que vous ne voulez pas goûter mes patates ?
C'est aujourd'hui jour de jeûne pour nous, répondit le frère Gabriel.
Allons donc, il n'y a plus ni couvent, ni règle, ni jeûne, dit brutalement Manuel pour encourager le pauvre vieillard à prendre sa part du régal général. Du reste, vous avez passé l'âge puisque vous avez 60 ans. Ainsi, plus de scrupules, mangez des patates. Vous ne serez pas damné pour cela.
Pardonnez-moi, répondit le frère Gabriel, mais je ne veux pas cesser de jeûner comme par le passé, tant que je n'en suis pas dispensé par le père prieur.
Bien parlé, frère Gabriel, dit la tante Marie. Manuel, ne fais donc pas le métier de l'esprit tentateur avec tes idées de révolte et tes excitations à la gourmandise.
Ensuite, la bonne vieille se leva et serra dans un buffet l'assiette que Dolorès avait servie aux religieux en disant à celui-ci
« Je vous le garde pour demain, frère Gabriel. »
Après le souper, ils récitèrent les actions de grâce et pendant ce temps, les hommes retirèrent leurs chapeaux qu'ils gardent toujours sur la tête dans l'intérieur de la maison. Après le paternoster, la tante Marie a dit
« Béni soit le Seigneur qui nous donne à manger sans que nous le méritions. Amen. De même qu'il nous prodigue ses biens, qu'il nous accorde sa gloire. Amen. » Que Dieu donne aussi du pain aux pauvres qui n'en a pas. Amen.
Une fois la prière finie, Anise fit un saut à pieds joints, aussi droit et aussi soudain que l'aurait fait un poisson dans l'eau.